dénoncer un milieu évangélique. Je vous propose une méditation de carême. Voilà. Il se trouve que voilà, ce que je vous propose correspond un peu à un temps liturgique qui est dans le rythme habituel de beaucoup de communautés contemporaines. C'est moins dans nos habitudes, mais voilà, je trouve que ça va ensemble. C'est le premier siècle de notre ère. La nuit commence à tomber sur Jérusalem. Une discussion vient de se terminer. Jésus vient d'annoncer à ses amis, à ses proches, ceux avec qui il a passé probablement 3 ans, que c'est cette nuit même qu'il va être capturé et qu'il va être mis à mort. Et non seulement ça, mais qu'ils vont le laisser tomber, qu'ils le renieront, qu'ils feront comme s'ils ne le connaissaient pas. Je lis dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 35. Matthieu 26, verset 35. Si vous voulez suivre, je lis dans la traduction du Semeur. Je crois, du moins, que c'est la traduction du Semeur. C'est probablement la traduction du Semeur. Matthieu 26, 35. Pierre lui dit, « Je ne prétendrai jamais que je ne te connais pas, même si je dois mourir avec toi. » Et tous les autres disciples dirent la même chose. Alors Jésus arriva avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémané. Et il leur dit, « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Puis il emmena avec eux Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à ressentir de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, « Mon cœur est plein d'une tristesse mortelle. Restez ici et veillez avec moi. » Il alla un peu plus loin, se jeta le visage contre terre et pria en ces termes, « Mon Père, « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. » Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il revint ensuite vers les 3 disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller avec moi même une heure. Restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et pria en ces termes, « Mon Père, si cette coupe ne peut pas être enlevée sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint encore auprès de ses disciples et les trouva endormis. Ils ne pouvaient pas garder les yeux ouverts. Jésus les quitta de nouveau, s'éloigna et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Puis il revint auprès de ses disciples et leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez ? Maintenant, l'heure est arrivée et le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, voyez, l'homme qui me livre à eux est ici. » Mon Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Ou bien, on traduit parfois, non pas ma volonté, mais la tienne. Parole que je trouve poignante de Jésus. Qu'est-ce que nous dirons-nous quand, pour de vrai, nous verrons la mort venir? Au cas où nous nous verrions avertis, alertés, conscients de ce qui va se passer, que c'est le moment auquel nous nous attendions sans l'attendre. Je repense facilement à ces paroles, c'est un peu sombre. Mais bon. D'un chant de Léo Ferré, qui présente la mort comme je cite assez souvent, comme la sœur de l'amour. Il dit la mort qui nous attend et l'amour qu'on espère. Et si elle ne vient pas, si lui ne vient pas, elle viendra toujours. Que dirons-nous? Jésus dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Elles sont d'autant plus poignantes, ces paroles, que rien extérieurement ne semble présager cette mort, qu'elle va avoir lieu. Il n'y a pas de... Nous, serons-nous avertis? Pas forcément. Notre vie ordinaire, à ma connaissance, n'est pas comme celle de ces films d'horreur pour un public souvent adolescent, où la mort s'annonce. Si tu entends telle chose, si tu vois telle vidéo, c'est sûr que dans 24 heures, t'es mort. La mort, elle risque fort de nous surprendre, et pendant même ce moment de culte, alors que rien ne nous avertit, que rien ne nous prépare. Et on aurait pu dire à Jésus, l'évangéliste ne nous le dit pas, mais non, mais tu te fais des idées. Et peut-être lui-même était-il en lutte à l'égard de lui-même. Je trouve poignantes ces paroles quand rien ne laisse présager, et surtout poignantes parce qu'elles s'avèrent vraies, nous savons qu'elles sont vraies. Et du coup, on mesure combien... Qu'est-ce qui se passe? Non pas ma volonté, mais la tienne, dit Jésus. La volonté de Dieu, ici, c'est la mort. Mais où est-il, crieront beaucoup de nos contemporains, mais où est-il ce Dieu d'amour? C'est pas normal, c'est scandaleux. La volonté de Dieu, c'est que je meure. Et on pourrait crier, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mourir? Et qui plus est pour mourir en pleine force de l'âge, alors que je n'ai que 30 ans, alors que j'ai la vie devant moi, alors que je n'ai pas vécu, ou presque pas vécu. On pourrait élargir, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mourir alors que je n'ai que 25 ans, alors que je n'ai que 20 ans, alors que je n'ai que 15 ans. Et je me demande dans quelle mesure nous dirions, avec l'âge qui est le nôtre, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mourir avec l'âge qui est le mien, même s'il est beaucoup plus que 15, que beaucoup plus que 20, que 30. Alors que je n'ai même pas, diront certains d'entre nous, réalisé, connu telle expérience, réalisé tel projet que je chérissais, alors que je n'ai même pas saisi l'occasion de dire aux miens combien ils étaient importants pour moi. On s'est laissé sur un malentendu, là. Pas eu l'occasion de dire au revoir. Alors que je n'ai jamais goûté tel ou tel plat, fait tel ou tel voyage. Ou bien alors que j'aurais vécu toute ma vie dans ces conditions-là. Alors que j'aurais passé toute ma vie dans ce boulot de chien, mal payé, dans les frontières de cet appartement, avec ces voisins-là. Alors que j'aurais passé toute ma vie avec cette personne-là, et pas une autre. Alors que je n'aurais pas eu tel succès, tel accord, alors que je n'aurais pas eu, j'en sais rien, je mettrai ce que vous voudrez, telle voiture, telle reconnaissance, alors que j'aurais eu cette vie-là, finalement. Elles viennent vite, les litanies. J'en propose trois. La litanie de l'auto-apitoiement, La litanie de la prise de pitié de soi, ce discours que nous nous disons à nous-mêmes et que nous disons aux autres. Moi, j'ai pas eu de chance. Moi, j'ai eu une enfance malheureuse. Moi, j'ai grandi sans parents. Moi, j'ai eu une adolescence difficile. Moi, j'ai grandi avec des parents qui m'ont fait tellement souffrir. Ou bien, oui, moi, j'ai été aimé, oui, j'ai été aimé. Mais j'ai été tellement étouffé par cet amour. On a prévenu le moindre de mes désirs. J'avais même pas le temps de désirer que déjà, on disait, mon petit chéri, tu veux pas... J'avais même pas le temps de... Qu'aujourd'hui, maintenant, je sais même pas quoi faire pour gagner ma vie. J'ai jamais été confronté à des difficultés. Toujours, il y a quelqu'un qui les prenait en charge à ma place. Et moi, je sais pas quoi faire de ma vie. Moi, c'est différent. Et puis on accroche avec la litanie de la comparaison avec les autres. Moi c'est différent, vous c'est pas pareil. Vous pouvez pas me comprendre. Les autres, eux, ils ont un conjoint. Les autres, ils ont plus d'argent que moi. Les autres, eux, ils sont en bonne santé. Ils ont d'autres conditions de vie. Et puis on peut se le dire à soi et puis le dire aux autres aussi. La morale faite aux autres. Toi, tu es un conjoint, toi. Ou bien, oui, mais toi, tu es un conjoint qui t'aime. Mais toi, t'as le temps. Toi, t'es célibataire. Toi, t'as une paye en fin de mois. Toi, t'as peut-être pas beaucoup d'argent, mais t'as une belle maison. Toi, t'as une belle voiture. Toi... Vous, vous ne pouvez pas comprendre. Ou bien la litanie de la colère. Là aussi, à deux niveaux, celle qu'on s'adresse à soi-même, d'abord. Quand on se dit des choses comme « c'est bien fait pour toi, imbécile. » Il te l'avait bien dit, l'autre. Si seulement tu avais travaillé un peu plus pour l'examen. Si seulement tu avais écouté Dieu. Si tu avais été attentif au signal d'alarme qui sonnait dans ta tête, si seulement, bougre d'imbécile, tu avais fermé ta bouche à ce moment-là, au lieu de monter sur tes grands chevaux tout de suite, là, il fallait que tu en places une, hein, tu pouvais pas te taire, non. Tu savais que c'était pas une bonne idée, mais bourrique. Non, t'as fait qu'à ta tête. Ou la colère qu'on adresse à l'autre, l'autre qui nous a déçus, qui nous a abandonnés sur le bord de la route, de la vie. Comme un animal qu'on laisse sur le bord de l'autoroute. Débrouille-toi, c'est ton problème. L'autre qui nous a préféré quelqu'un d'autre. L'autre qui nous a laissé, qui nous a légué la facture de gaz, les dettes. Qui nous a dit quelque chose qui nous a fait mal. Ou bien qui n'a rien dit au moment où on aurait aimé qu'il parle. Si seulement il t'avait donné ce conseil, au lieu de te laisser faire. L'autre qu'on accuse de nous avoir plongés dans telle situation. L'autre qui ne t'a pas donné d'encouragement. L'attention qui t'aurait permis de persévérer juste un petit coup de pouce, là. Et puis non, il n'était même pas là. L'autre qui en a trop fait, qui a donné trop d'encouragement. L'autre qui n'en a pas fait assez. Toi, tu, eux, ils, vous, moi, je. Et la litanie s'accentue devant la souffrance perçue comme imméritée. Quand on vit la souffrance, c'est souvent comme ça qu'on la ressent. Comme s'il y avait d'ailleurs un barème, un espèce de point de repère universel qui nous permettrait de dire que telle chose est méritée et puis telle chose, elle est vraiment pas du tout. On vient de m'annoncer que mon espérance de vie, à présent, c'est de 6 mois, maximum. D'accord, j'ai pas été brillant, mais est-ce que je méritais ça? Je t'ai servi toutes ces années, Seigneur. J'ai donné, et j'ai encore donné. Jésus aurait, c'est peut-être des paroles que Jésus aurait pu, des pensées que Jésus aurait pu ressentir, exprimer. J'ai donné même quand il n'y avait pas de gratitude. J'ai donné même quand il y avait de la violence contre moi. J'ai donné, je me suis donné, et je me suis donné pour toi. J'ai passé des jours, j'ai passé des nuits de prière. J'ai enseigné mes disciples. Et maintenant, il faut en passer par là. Non pas ma volonté, mais la tienne. La parole est d'autant plus poignante qu'elle est dite au profond de la douleur. Je relis les deux extraits. Il commença à ressentir de la tristesse et de l'angoisse. Mon cœur est plein d'une tristesse mortelle. Cette parole, je la reçois comme poignante parce qu'il s'agit de consentement. C'est là que je veux revenir. Et de consentement à la justice. De consentement au mal. De consentement à un mal qui est subi. Et en plus, c'est un mal qui est subi, c'est un mal qui est infligé par quelqu'un. Je veux dire, c'est pas l'inondation, c'est pas le tsunami ou le tremblement de terre qui vient tous nous impacter de la même façon, de façon analogue, de plein fouet. Et là, on sait pas très bien à qui en vouloir, sinon à Dieu, quand on croit en lui. Mais voilà, pour la personne qui ne croit pas en Dieu, à qui en vouloir, ça se produit. Là, il n'y a pas d'acteur humain sur qui on pourrait faire reporter la responsabilité, à qui on pourrait en vouloir. Quand c'est un agent humain qui provoque notre douleur, là, on a un visage à mettre sur les mots et sur les mots qu'on ressent. Quelqu'un a fait ça. Quelqu'un a fait ça avec injustice. C'est lui, c'est elle, sans raison, gratuitement. Quelqu'un m'ôte la vie. C'est un peu plus délicat quand c'est la maladie qui nous touche. La dépression, le hasard. Le deuil qui me frappe, moi, de plein fouet. Et pourtant, même si on ne croit pas en Dieu, parce que Dieu, on peut lui en vouloir, on dit « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Non pas ma volonté, dit Jésus, mais la tienne. Et je crois entendre, c'est ma lecture en tout cas, c'est apparemment pas une résignation, comme dans les « c'est la vie, c'est comme ça ». Je crois voir un choix d'engagement de la part de Jésus, qui apparaît bien sûr ici avec tout son relief, qui remonte sans doute à tout son engagement en venant être humain. Mais je crois que ça s'est confirmé dans l'évangile de Luc, quand Luc nous raconte la même scène. Jésus dit qu'il pourrait très, très facilement, d'une simple demande, faire surgir toute une légion d'anges pour le délivrer. Il n'aurait qu'un mot à prononcer. Jésus consent à ce qu'il en soit ainsi. Vous me direz, peut-être, que c'est apparemment pas quand même un consentement qui va de soi. Je relis les passages du texte. Il se jeta le visage contre terre et pria en ces termes, « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. » Il s'éloigna une deuxième fois et pria en ces termes, « Mon Père, si cette coupe ne peut pas être enlevée sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Jésus les quitta de nouveau, s'éloigna et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Je trouve poignant aussi qu'il y ait à la fois ce consentement et ce consentement qui dit aussi qu'il aimerait qu'autre chose soit possible, qu'il aimerait une autre vie, qu'il ne le nie pas, qu'il ne fait pas comme si tout allait bien, c'est cool quoi, ou bien haut les cœurs, on fait comme si ça va bien, allez, on y croit, et le Seigneur est grand, alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Qu'on entonnerait pour se masquer son vertige intérieur, un peu comme une espèce de méthode couée chrétienne. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel. C'est toute la différence entre la soumission involontaire et la soumission volontaire, l'obéissance volontaire. entre ce oui qu'on dit du bout des lèvres, parce qu'il faut bien dire quelque chose, et quoi. Le oui de la résignation, de celui ou celle qui baisse les bras, de lassitude, de dépit, et le oui de l'adhésion malgré tout, le oui qui dit oui, malgré tout, en dépit de tout. Et je le dis, je ne vais pas m'attarder dessus, parce que je quitte, mais ça peut être aussi, pour certains d'entre nous, c'est un oui qui est difficile à prononcer au bonheur. On est tellement habitué à souffrir, certains sont tellement habitués à souffrir qu'ils ne croient pas que là, le moment de le bonheur, je peux vraiment le vivre parce que j'ai trop peur de m'engager dans ce moment de bonheur. Donc il y a des consentements aux choses difficiles, et c'est ce dont parle le texte, mais il y a aussi, pour plusieurs d'entre nous, peut-être des consentements aussi à la joie qui sont difficiles. Donc entre le oui de la résignation et le oui de l'accueil, le oui qui accueille ce que Dieu donne, le oui à cette vie que Dieu donne, que Dieu me donne, que Dieu donne à chacun de nous, oui à cette vie avec toutes ses limitations, tout ce qu'elle a d'insatisfaisant, le oui qui accueille ce que Dieu donne, même de douloureux. Un auteur, probablement un auteur ancien, vous allez le voir à cause du vouvoiement, donc il parle à Dieu, et il dit « L'homme ne peut pas vous comprendre, mais il peut vous dire Amen. » Dire oui à Dieu. Dire oui à la vie que Dieu nous donne, que Dieu nous a donnée. Dire oui à cet être que je suis, à ce corps que je suis, tel qu'il est, avec toute sa vitalité et tout son manque de vitalité. Sur certains aspects, ou beaucoup d'aspects, en fonction de chacun d'entre nous. Oui, je n'ai pas telle ou telle chose. Je n'ai pas la santé, je n'ai pas la richesse, peut-être. Je n'ai pas tel vêtement, je n'ai pas tel succès. Je n'ai pas tel enfant, ou bien j'ai des enfants, mais je préfère en avoir d'autres. Je n'ai pas tel conjoint, qui devrait être formidable, lui, mais bien... Oui, je n'ai pas ce CE et ce CEX dont je rêve, et je ne suis pas ce dont je rêve peut-être, ou que je rêverais, et je ne les aurai peut-être jamais. Je ne peux pas retourner vers le passé pour y apporter les corrections que j'aimerais y apporter, mais il nous reste. Le pouvoir, façon de parler, de signer, pourtant. C'est dans une vieille comédie musicale, Les Misérables, peut-être ça a été réactualisé récemment, mais un des chants c'est déjà, qui correspond bien à ça. Aime ce que tu as quand t'as pas ce que t'aimes. Quand t'as pas ce que t'aimes, aime ce que tu as. Il te reste, il me reste le pouvoir de consentir à ce qui est. Mais je ne dis pas que ça va de soi. Il faut du temps parfois pour consentir. De consentir à tout ce que tu vis, à tout ce que nous vivons comme une limitation. De consentir à notre fragilité, à notre âge, à ce que j'ai semé derrière moi, à mes insuffisances, à mes joies, à ce qui fait aussi les richesses de ma vie, consentir à ce qu'on m'a infligé alors que je ne le voulais pas, consentir aux limitations des autres, à leur insuffisance, ou ce que je perçois comme une insuffisance. Il te reste, il me reste le pouvoir de te défaire, de me défaire de mon illusion de toute puissance, à accueillir ce qui est. Je ne peux pas, tu ne peux pas, vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas changer le monde autour de nous, ni notre vie, ou bien très peu de notre vie, mais peut-être que ce qui est à notre portée, qui nous appartient, et qui fait que nous partirons avec en paix ou en révolte, c'est peut-être plus grand que ça, je ne sais pas. Nous avons le pouvoir d'y consentir. Alors c'est un petit peu, ça pourrait être dit en termes très, très fins du livre du Deutéronome. Tu as devant toi d'un côté l'auto-apitoiement, la comparaison avec les autres, la colère. Et tu as de l'autre côté le consentement et l'accueil. Alors il y a peut-être des puristes qui me diront, oui mais on nous demande même plus que ça, on est invité aussi à nous réjouir. J'entends bien. Peut-être les puristes n'auront pas forcément tort, mais j'ai envie de dire, ce voyage-là, il commence par le premier pas, qui est de consentir et d'accueillir. Donc si nous avons devant nous ça, qu'est-ce que nous allons faire? Et je ne veux pas le dire de manière culpabilisatrice en disant c'est mal si tu fais quelque chose. C'est pas mon intention. Mais dire ça nous appartient. Jésus ici répond, non pas ma volonté, mais la tienne. Seigneur, prions-nous, sommes-nous invités par Jésus à prier, que ta volonté soit faite dans la terre comme dans les cieux. Je t'invite à un moment de silence. Seigneur, je dis souvent, enfin, je ne sais pas si je dis souvent, il m'arrive de reprendre ces paroles du Notre Père, que ta volonté soit faite, et j'entends en moi une partie de moi qui prie, Seigneur, que ma volonté soit faite. Seigneur, je suis touché de te voir devant ce que Dieu t'avait donné à vivre, et de te voir l'accueillir. De te voir l'accueillir en disant aussi ta douleur et ta peine. Seigneur, je voudrais prier pour moi, pour chacun de mes frères et sœurs. Et te demander de nous accompagner, nous, dans ce que tu nous donnes à vivre. Dans toute notre difficulté à accueillir ce que nous avons du mal à vivre et te demander que ta grâce nous rejoigne, nous porte, que Jésus que nous voulons aimer, servir ou que nous cherchons à découvrir, que ça nous rejoigne, continue à nous rejoindre et nous porter pour vivre pour nous, pour vivre avec les nôtres dans le contexte que tu nous donnes, dans ce que tu nous donnes et qui constitue notre vie, pour que nous vivions dans l'accueil et la confiance en toi, avec tout, malgré tout. Aide-moi à cheminer dans ce sens, je vois que j'en ai besoin. Aide chacun d'entre nous à cheminer dans ce sens. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.